RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro.
Bonjour,
bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour,
bonjour
Adrien. Dans la question en plus, ce sera Laurent Vronsky, industriel et secrétaire général de Croissance Plus, qui vous interpellera, Philippe Martinez. Et bien sûr, question nette en fin d'émission, vous y êtes habitués. Vous pouvez envoyer toutes vos questions en direct, hashtag Le Grand Jury. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour les poser à notre invité. Alors Philippe Martinez, vous êtes l'homme qui menace de bloquer la France pour dire non à la réforme des retraites. Le 5 décembre, inquiète grand nombre de Français, car la grève que vous lancez ce jour-là est censée être reconduite jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction. L'ombre de décembre 1995 plane-t-elle sur le pays? Espérez-vous le grand soir? La convergence des luttes, nous vous poserons ces questions pendant cette émission. Et sur le fond, vous êtes hostile à la réforme proposée par le gouvernement, mais que propose la CGT à part le retour à l'âge légal à 60 ans? Et puis cette réforme des retraites, ça ressemble aussi à un coup de poker pour vous. L'occasion rêvée pour la CGT de se refaire une santé après votre échec de 2018 pour empêcher la réforme de la SNCF, après un mouvement des Gilets jaunes qui s'est fait loin de vous, sans vous même, et plus globalement, alors que les Français s'éloignent de plus en plus des syndicats, 10% seulement, je le rappelle, d'entre eux en sont adhérents. Nous en parlerons également dans cette émission, mais nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première question posée par Alexis Brézé.
Et qui concerne évidemment la réforme des retraites. Et la question est de savoir si est-ce que vous êtes prêt à discuter avec le gouvernement. On a compris que vous n'étiez pas d'accord. La semaine dernière, il y a eu une réunion à laquelle la CGT et d'autres syndicats étaient conviés, c'était jeudi dernier, autour de Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari, et la CGT a fait le choix de ne pas y aller. Mardi prochain, il y a une autre réunion que Édouard Philippe convoque à Matignon et vous invite, vous et d'autres syndicats. Est-ce que cette fois, vous irez à Matignon mardi prochain?
Philippe Martinez.
Alors, il faut être très précis, parce que je trouve que cette petite musique qui consiste à dire que la CGT ne veut pas discuter, on est là pour dire la vérité. Donc, monsieur Delevoye, depuis 18 mois, on a dû le voir 12 fois ou 13 fois, je ne sais plus. Enfin, ça fait quelques rendez-vous. Monsieur Delevoye, on l'a revu il y a 15 jours, puisqu'on est dans une nouvelle phase de concertation. Alors, est-ce que, quand on l'a vu 14 ou 15 fois, ça veut dire qu'on ne veut pas discuter? D'accord? Non, mais il faut dire les choses.
Mais donc la 15e ou la 16e fois, vous vous dites, ça ne vaut plus la peine?
Non. Qu'est-ce qui se passe avec M. Djebbari? C'est la CGT...
Au transport.
CGT cheminot qui a été... La CGT cheminot, depuis que M. Djebbari a été nommé secrétaire d'État au transport, ça fait 6 mois, elle veut le voir... Parce qu'il y a quelques problèmes à la SNCF. Vous savez, il y a des accidents. Vous rappelez
qu'il y a eu un... Non, mais là, c'est l'occasion.
Attendez. Il y a eu un accident grave. Donc la CGT cheminot, elle dit, on est d'accord pour vous voir, mais pour parler sécurité à la SNCF, pour parler fret, pour parler emploi, pour parler...
Et donc c'est vous qui fixez les ordres du jour des rencontres quand
mais
vous
un secrétaire d'État au transport, il s'occupe de quoi? S'il ne s'occupe pas de la SNCF, il va s'occuper de quoi, le monsieur? Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, ça veut dire que vous posez vos préalables pour accepter les temps de négociation, de discussion, d'échange?
Depuis 6 mois, est-ce que c'est normal qu'un secrétaire d'État au transport, depuis 6 mois, il ne prend pas en compte une demande des cheminots pour discuter des problèmes à la SNCF?
Mais alors, dites-nous, mardi,
qu'a dit la CGT cheminot? On veut toujours vous voir, parce qu'il y a des problèmes graves à la SNCF, sur les questions cheminots. Pour les questions de retraite, on a une confédération... Et elle discute avec ceux qui sont habilités pour discuter de ces questions-là. Donc, nous discutons retraite avec M. Delevoye. Je crois qu'il est encore, même si j'ai compris qu'il y a beaucoup de voix dissonantes.
Oui. Donc, est-ce que si c'est oui pour parler sur les retraites, ça veut dire, comme vous le demandez Alexis, que vous allez mardi aller à Matignon?
Mais nous irons mardi à Matignon à 9h30, pour être précis.
Alors, Jean-Baptiste Djebbari réagit en direct. Hein, il dit « Je suis secrétaire d'État depuis 3 mois ». Voilà ce qu'il vous rappelle, Philippe Martinez.
Et
que vous aviez rendez-vous avec Laurent Brun vendredi, il vous recevra quand vous le souhaitez.
Oui, c'est facile de réagir comme ça. Alors, donc, depuis trois mois, il n'a pas répondu aux demandes de la CGT cheminot de parler.
En tout cas, vous venez nous dire, on ira mardi à la réunion à Matignon autour d'Edouard Philippe.
Mais comme on l'a fait à chaque fois, c'est ça que je suis en train de dire.
Alors vous y allez pourquoi?
Donc arrêtez et arrêtons
cette
petite musique, notamment au niveau du gouvernement, parce que c'est un C'est un truc que j'entends là depuis quelques jours, que la CGT refuse de discuter.
Philippe Martinez, vous y allez, parce que vous pensez qu'il y a moyen de faire des concessions de part et d'autre. Vous êtes prêt à en faire également pour que le dialogue avance?
Nous y allons, premièrement, pour dire qui s'occupe des retraites aujourd'hui dans ce pays. Est-ce que c'est toujours M. Delevoye? Est-ce que c'est M. Djebari? Est-ce que c'est Édouard Philippe? Est-ce que c'est le président de la République? Ça devient difficile à comprendre. D'autant qu'à chaque fois qu'un ministre intervient, c'est soit pour dire on va travailler plus longtemps, on va augmenter le nombre de trimestres, on nous a inventé maintenant la clause grand-père. Nous, on aimerait savoir qui s'occupe des retraites dans ce pays. J'avais compris que c'était M. Delevoye. Voilà, donc on va dire ça au Premier ministre. Et puis, on va lui reparler de nos propositions en matière de retraite, mais aussi sur d'autres
sujets. Concrètement, Philippe Martinez, vous y allez et vous resterez à ce rendez-vous ou vous allez juste dire voilà ce que nous voulons et vous partirez? Quelle est votre intention réelle pour cette réunion, cette rencontre bilatérale?
On verra ça avec le Premier ministre. Vous comprenez que on va voir le Premier ministre, on va lui dire un certain nombre de choses et je lui dirai à lui en personne et pas à vous.
Mais vous pouvez être dans le coup d'éclat, c'est la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire aller juste pour dire bonjour et partir. Voilà.
On a quelques sujets à parler, dont les retraites, évidemment.
Mais vous entendrez aussi ce que vous dira le Premier ministre et vous rentrerez une forme de négociation.
Mais ça fait 10 plus. Enfin maintenant, ça fait plus. Maintenant, je me méfie parce que M. Djebari risque de réagir. Donc ça fait plus de deux ans. Qu'on discute de retraite, vous le savez ça. Mmh. Le rapport de Levoix, il existe. On a fait des propositions. Mmh. Il se trouve qu'on a un problème avec ce gouvernement, mais ce n'est pas le seul gouvernement avec qui on a eu des problèmes de ce style. C'est qu'on nous parle de concertation, mais toutes nos propositions, on les met de côté. On les met de côté. Donc c'est là où il y a un problème.
Est-ce que vous ne mettez pas de côté toutes les propositions du gouvernement à l'avance?
On va rentrer dans le vif du sujet. Quelque chose de très simple. Je vois que le gouvernement communique beaucoup sur la question de la pension des femmes. Les inégalités. Mmh. Beaucoup. Il dépense de l'argent public, d'ailleurs, pour faire de la pub dans les journaux, à la télé et à la radio. C'est simple, la retraite des femmes. Il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes dans ce pays. D'ailleurs, il y avait une manifestation contre les violences sexistes dans ce pays, mais aussi sur l'égalité. C'est 17%. Si on les annule, c'est-à-dire que si on paye les femmes autant que les hommes dans ce pays, eh bien, automatiquement, la pension des femmes sera meilleure. La pension des femmes sera meilleure. Est-ce que ça a à voir, un sujet qui a à voir avec les retraites? Non, c'est aujourd'hui qu'il faut rétablir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
On va y venir.
D'ailleurs, Monsieur Delevoye est d'accord avec nous. Mais il dit ça, c'est pas dans moi.
On va y venir,
c'est pas mon sujet à moi.
Tout d'abord, sur la grève du 5 décembre, puisque ça préoccupe, vous savez, les Français. Donc, vous dites que vos confédérations ont voté et que vous irez mardi à la rencontre prévue avec le Premier ministre. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Qu'en est-il de la grève du 5 décembre? Quelle est votre intention réelle, Philippe Martinez? Est-ce que vous êtes prêt à bloquer le pays tant que vous n'obtiendrez pas satisfaction?
La première chose, c'est que 60% des Français interrogés approuvent cette journée de mobilisation. C'est bien de le dire.
Et en même temps, ils disent que la réforme se fera.
60% des Français approuvent la journée d'action du 5 décembre.
Mais s'ils sont bloqués une journée, deux journées, trois journées, ils approuveront peut-être un peu moins.
Mais vous êtes d'accord? 60%.
Ah bah c'est un sondage.
Voilà. RTL.
Voilà, vous voyez que je vous écoute. Donc, il y a plutôt une opinion publique qui est favorable parce qu'il y a, le moins qu'on puisse dire, quelques problèmes sociaux dans ce pays. Donc, le 5, il y a une journée d'action dans tous les secteurs d'activité, parce que là aussi, j'entends que ça serait que le public, etc., dans tous les secteurs d'activité. Il y a beaucoup de...
Dans le privé, dans vous l'entendez? Ouais.
Mais, parce que moi, je vais sur le terrain.
Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que la mobilisation peut être massive?
Mais elle sera massive dans le privé.
C'est pas ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux ce matin.
Mais le jour où Geoffroy Roux de Bézieux le président du MEDEF encouragera à la grève, vous me faites signe, je viendrai rire avec vous.
Mais donc, ça veut dire journée de blocage du pays. Benjamin, vous interrogez, est-ce que ce sera une journée de blocage? Est-ce que vous souhaitez blocage total du pays?
Ça sera une journée de grève, et quand il y a grève massive, il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin, on a eu un aperçu, je crois, le 13 septembre, la RATP. Quand il y a 95% de salariés en grève, forcément, ça marche moins bien.
Vous avez des indications sur le taux possible de grévistes ce jour-là?
Pour l'instant, il faut attendre que les grévistes se déclarent, parce que vous savez que, comme il y a un service minimum, il y a des modalités de déclaration.
Et ce serait quoi un succès, alors, pour vous? À quel
chiffre? Le maximum de salariés en grève. Mais des échos que nous en avons... Il y aura beaucoup de salariés. Vous savez, il y a plein de salariés du privé, de petites entreprises qui nous appellent pour nous dire mais comment on fait grève? Parce qu'on a perdu cette culture de l'action. Est-ce qu'il faut un préavis? Non, dans le privé, il n'y a pas besoin de déposer un préavis. Il y a un mot d'ordre de grève, on peut arrêter le travail comme on veut. Donc, on a des appels de salariés qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise, qui nous disent comment on fait? Ben, on leur a expliqué comment on fait. Donc, c'est très massif et bien au-delà de seulement les régimes spéciaux.
Et
comme
dans votre esprit, au-delà d'une journée, si on a bien compris, c'est une grève reconductible. Nous, ça peut être un jour, puis deux
nous,
jours.
Nous appelons.
Ça peut durer combien de temps cette affaire-là?
C'est pas Martinez qui décide.
Nous appelons
à reconduire le mouvement. Mais il y a des assemblées générales, c'est très démocratique, les mouvements sociaux. Il y a des assemblées générales, et c'est les salariés qui décident si ils veulent reconduire ou pas. Nous appelons à ce que cette mobilisation elle puisse durer jusqu'à temps que le gouvernement...
Donc le soir du 5, on décidera si on fait 6, et le soir du 6, si on fait 7, etc. C'est comme ça que ça va se passer?
Vous avez tout compris.
Et ça, à votre avis, ça peut durer jusqu'à quand?
C'est les salariés qui décident.
Juste qu'on comprenne, Philippe Martinez, l'horizon c'est ça continue tant que le gouvernement ne vous dit pas on retire le projet, il n'y aura pas de réforme
retraite. Exactement. Non. Retire ce mauvais projet. Nous, on veut une amélioration du système de retraite.
Mais on retire ce projet. Donc ça peut aller jusqu'à Noël. Vous pensez que cette grève peut, comme en 1995, bloquer le pays jusqu'à Noël?
Je vous dis, nous, tant que le gouvernement n'aura pas retiré ce mauvais projet, j'espère qu'on va discuter pourquoi il est mauvais, eh bien, c'est les salariés qui décideront. Mais en tout cas, on ne peut pas... C'est une vraie fracture dans notre pays, cette réforme. C'est un changement profond. C'est la réforme des retraites pour les premiers de cordée. Il va y avoir beaucoup, une quasi-totalité de sacrifiés avec cette... C'est un accroissement des inégalités. C'est un accroissement de la pauvreté.
Est-ce que vous pouvez appeler à la grève générale, Philippe Martinez?
Mais quand on appelle tous les salariés à se mobiliser... Et on appelle à une généralisation des grèves.
Ah oui, c'est pas la même chose que la grève générale. Il y a quelque chose de très symbolique, de très fort.
Mais il n'y a jamais eu d'appel à la grève générale.
Depuis quoi, 68?
68, il n'y en a pas eu non plus.
Mais là, c'est votre
En 68, on a appelé, la CGT a appelé à des actions partout et c'est les salariés qui ont généralisé les grèves. Il n'y a pas un bouton magique dans le bureau du secrétaire général. Par contre, il faut que partout, il y ait des mobilisations et des grèves massives.
Vous disiez, il y a des inégalités dans le pays. Précisément, c'est ce que vous retorquent Emmanuel Macron et Richard Ferrand. Emmanuel Macron, vendredi à Amiens, il disait la grève du 5, ce sont ceux qui veulent défendre des régimes spéciaux d'une autre époque. Et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ce matin, dit dans la presse que justement, on veut défendre des inégalités parce qu'aujourd'hui, le système est inégalitaire et que la réforme à terme doit permettre d'avoir un système universel, plus équitable de retraite.
Cette réforme va toucher tout le monde. Et donc, c'est le président de la République qui devrait être le président de tous les Français.
Pour plus d'universalité.
Le président de tous les Français essaie de diviser les Français. La réforme, elle touche tout le monde, y compris les retraités, y compris les futures générations, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce qu'elle est inégalitaire, parce que, un exemple simple, je vous ai cité le problème des femmes, qui n'a rien à voir avec une réforme de retraite. Mais quand on prend le calcul sur l'ensemble de la carrière, c'est mathématique. Quand vous démarrez votre carrière, vous êtes moins bien payé que quand vous la terminez, non? Enfin, mais c'est pas pour vous.
Donc, Emmanuel Macron,
attendez. Pour moi, ça a été comme ça. Et pour la majorité de ceux qui travaillent, ça a été comme ça. Eh bien, quand on prend la moyenne sur l'ensemble de la carrière, forcément, le niveau des pensions va baisser. Je prends, par exemple, l'éducation nationale, où on a les enseignants les moins bien payés d'Europe au début de leur carrière. Eh bien, automatiquement, ça va chuter de 16
à... C'est un qui est plus d'équité.
Mais je viens de vous expliquer. Mon explication, vous ne l'avez pas compris?
Non, moi je pose une question sur l'équité. Vous me répondez sur le calcul de la retraite. L'idée du gouvernement
est la l'équité, c'est de baisser les pensions de tout le monde. C'est de nous faire travailler plus longtemps. Eh bien, ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. J'étais dans un EHPAD jeudi matin, en Nord-Isère. Des bas salaires, des conditions de travail pénibles. Vous savez qu'il y a un problème dans la santé en ce moment? Les filles, parce que c'est beaucoup de filles qui étaient avec moi, me disent « Mais tu t'imagines nous voir travailler en ayant le même âge que nos résidents ?» Parce que c'est ça. Donc il y a une réforme théorique où on veut faire des économies, parce que c'est ça. Et puis il y a la réalité du monde du travail qui souffre avec des travaux pénibles.
Et Emmanuel Macron veut diviser les Français, c'est ce que vous dites.
Bien sûr. Mais quand il vous dit qu'un certain nombre de régimes spéciaux, par exemple la SNCF ou la RATP, sont mieux traités que les autres, est-ce que vous dites c'est vrai qu'ils sont mieux traités?
Mais c'est pas vrai. Premièrement, il y a un problème de salaire, dans beaucoup de problèmes
de salaire. On parle de régime de retraite.
Mais vous savez que Les retraites, c'est lié avec le salaire. Oui, pendant... oui. Vous le savez, ça. Oui. Donc, si on ne parle pas salaire, on ne peut pas évoquer la question de retraite. Donc, vous savez que, contrairement aux idées toutes faites et ce qu'on essaye de nous dire, il y a des problèmes de salaire dans la fonction publique et à la SNCF et à la RATP.
Dans les transports privés et partout, oui, bien sûr.
Ça, c'est la première chose. Et puis, un système équitable. Alors, je vais changer de ville. Parce que jusqu'à maintenant, c'était le Premier ministre qui disait que les chauffeurs du Havre devaient avoir le même régime que les chauffeurs de bus de la RATP. On est d'accord, mais pourquoi prendre le plus bas et pas prendre le meilleur ?
D'accord.
Maintenant, j'ai entendu le président de la République qui disait « c'est pas normal qu'à Amiens, les chauffeurs de bus n'aient pas le même régime que les chauffeurs de la RATP ». Eh bien, ok, donc, alignons tout le monde vers le haut.
Donc vous dites « oui, les situations ne sont pas égales, mais il faut aligner tout le monde vers le haut ».
C'est ça la justice sociale, monsieur.
D'accord, non, mais donc vous reconnaissez qu'il y a... Donc le point de départ, quand le gouvernement dit il y a des inégalités, ça vous le reconnaissez ?
Il y a un traitement différent sur les questions de pénibilité, c'est pour ça que nous avons...
Ou d'âge de départ à la retraite.
Oui, mais vous voulez aligner sur les régimes spéciaux.
Sur la question de la pénibilité, bah quand deux travailleurs ont le même travail et qu'il est pénible, pourquoi on devrait baisser ?
Donc vous voulez aligner tout le monde, par exemple, dans le transport, sur les régimes spéciaux.
Sur la prise en compte de la pénibilité, qui est un régime particulier. Mais on pourrait évoquer le travail de nuit, pour les infirmières, par exemple. Vous voyez, il y a plein de sujets. Et d'ailleurs, c'est les propositions que fait la CGT à M. Delevoye et qu'on continue à faire. Il faut prendre en compte la pénibilité du travail.
Dites-nous, Philippe Martinez, est-ce que vous avez des contacts avec le président de la République lui-même ? À un moment donné, vous avez renoué bien cette relation. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous échangez par texto, par mail, par téléphone avec le président de la République en direct ?
Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, tout le monde est au courant, c'était mi-septembre, ça faisait un petit moment.
Et depuis ?
Non, pas de nouvelles.
Et son cabinet ?
Vous pas de nouvelles non plus.
Pourquoi, selon vous ?
Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander ça.
Vous le regrettez ? Est-ce que c'est lui vraiment pour vous qui... Parce que vous dites, on ne sait pas qui gère cette réforme. Est-ce que pour vous, c'est le président de la République ?
Moi, c'est le constat que je fais. À chaque fois qu'il y a un ministre qui parle, il dit le contraire de celui d'avant. D'ailleurs, je n'aimerais pas être dans la position de M. Delevoye qui, avouons-le, a quand même du mal à gérer tout ça.
Mais est-ce que vous demandez au président de la République de s'emparer de ce dossier, de vous recevoir en personne ?
Mais il s'en est emparé. Il en a parlé dans son déplacement à Amiens. Il a dit, il y a des privilégiés dans ce pays... Pas les grosses fortunes, hein. C'est ceux qui gagnent 1500, 1600 euros par mois, les privilégiés pour lui.
Mais quand vous disiez on ne sait pas qui est l'interlocuteur sur le dossier des retraites, est-ce que vous souhaitez que ce soit lui l'interlocuteur ?
Je disais que jusqu'à maintenant, il y avait un haut commissaire,
Jean-Paul Delevoye,
qui a fait un rapport et qui a été nommé au gouvernement. Oui. Donc c'est lui l'interlocuteur.
Vous ne demandez pas à rencontrer le président de la République.
Mais, sauf que la situation devient confuse quand des ministres disent on parle de rallonger
la durée de
cotisation, on parle de déplacer l'âge de la retraite, la clause grand-père.
Mais alors est-ce que vous demandez au président de la République de vous recevoir, Philippe Martinez ? Est-ce qu'on comprenne bien ? Est-ce que vous dites que c'est plus du niveau du Premier ministre voir mardi ?
Non. Nous, on dit, il y a un ministre en charge de cette question. C'est lui la parole officielle du gouvernement. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un haut commissaire aux retraites.
Bon. Adrien Gindre ou Alexis Brézé ? Sur l'acquisition, Adrien Gindre.
Une question suite aux dernières déclarations qui ont été faites par un parlementaire de droite, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Il évoque le service minimum qui a été mis en place théoriquement, qui doit permettre, par la déclaration des grévistes à l'avance, aux entreprises d'organiser un service de transport. Mais il dit que si c'est nécessaire, il faudrait peut-être envisager de réquisitionner des cheminots pour pouvoir faire fonctionner le service et donc, en l'occurrence, assurer ce service minimum.
Oui, pourquoi pas supprimer le droit de grève qui est dans l'article 1 de la Constitution pendant qu'on y est. Les modalités pour faire grève sont très strictes. Elles ont été renforcées, vous le savez, par les gouvernements successifs. Mais moi, je demande aux hommes politiques qui ont ce genre de déclaration de plutôt s'interroger pourquoi, quand il y a 97% de grévistes dans une entreprise, on ne prend pas en compte ce qui se passe plutôt que de dire il faut supprimer le droit de grève parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui.
Il y aura un service minimum le 5 décembre qui pourra être assuré ?
Mais il y a toujours un service minimum. y a toujours un certain nombre de
grévistes. Si il y a trop de grévistes, on ne peut pas l'organiser. C'est ça, si, y a, si tout le monde fait grève, il n'y a pas de service minimum, en fait.
Évidemment. Voilà, c'est donc, ça l'idée. Donc on interdit le droit de grève.
Donc la question est, politiquement, est-ce que...
On veut interdire le droit de grève.
Est-ce qu'on organise... Parce qu'il faut bien voir aussi les conséquences de tout ça. Si ça dure pour le pays, pour les gens qui... Est-ce que vous ne dites pas, mais finalement, l'opinion, qui aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est vrai, est inquiète et approuve le principe d'une journée. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens vont pas dire, mais maintenant, on en aura le bol, c'est plus possible, on peut plus travailler, on peut plus se déplacer.
Écoutez, on va pas parler à la place des gens. Moi, ce que j'entends, et j'y vais beaucoup les rencontrer, ils sont plutôt en colère. Je vais pas vous citer toutes les mobilisations et tous les mouvements qui existent dans ce pays. Il y en a beaucoup, dans le public comme dans le privé.
Donc ça vous inquiète pas que l'opinion se retourne contre les syndicats et la CGT si ça dure trop longtemps?
On discute avec l'opinion, on fait des débats. Il y avait un débat au Puy il y a quelques jours, 300 personnes qui ont discuté. On vient de diffuser un journal à 2 millions d'exemplaires pour expliquer.
C'est la première fois depuis 1995 que vous tirez autant d'exemplaires d'un tract, nous dites.
Je pense que même avant.
Oui. Même avant. Est-ce que vous sentez une adhésion?
Non, nous on est pour le débat. D'ailleurs, je suis inquiet que beaucoup de députés, la quasi-totalité des députés de la majorité, refusent de venir débattre. Quand on est sûr de ses convictions, eh bien, on vient dans
les débats publics. Vous les invitez à débattre et ils ne viennent pas, Philippe Martinez ?
Oui, bien sûr, dans de nombreux départements.
Vous avez lancé une caisse de solidarité pour cette grève, si je ne me trompe pas, 500 000 euros. Non, vous n'avez pas de caisse de solidarité. Est-ce que vous avez l'intention d'en lancer une ?
On verra.
Alors, elle a été faite au nom de la CGT, visiblement, sur les réseaux.
On verra le moment venu. On en avait lancé une au moment de la mobilisation des cheminots. On verra ça le moment venu. Pour l'instant, la question, ce n'est pas de donner de l'argent pour que d'autres fassent grève à notre place.
Oui.
La question aujourd'hui, c'est que tout le monde fasse grève.
Oui, mais si jamais les jours de grève ne sont pas payés, puisque c'est l'intention du gouvernement, est-ce que vous allez anticiper cela?
Les jours de grève ne sont jamais payés. D'accord. Faut arrêter avec les légendes.
Mais il y a des négociations a posteriori.
De grève,
à la sortie de la grève.
Voilà.
À la sortie de la grève.
Avant, non.
Mais oui, mais vous laissez accréditer l'idée qu'il y en a qui seraient payés.
Mais ce serait une condition pour reprendre le travail.
Attendez, dans tous les secteurs, publics comme privés, à la fin d'un conflit, même avec des patrons du privé, on négocie les heures de grève. Par exemple, tous les moments passés en négociation sont neutralisés, vous voyez.
Alors, est-ce qu'il y aura une manifestation?
Vous faites de la formation sociale, c'est bien.
Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une manifestation le 5 décembre? C'est pas absolument clair.
Il y en aura, je pense, j'ai pas encore les chiffres, mais plus d'une centaine, oui.
Mais il y aura une grande manifestation.
Il y aura plus d'une centaine de manifestations dans ce pays, j'en suis sûr, dans tous les départements.
Et vous défilerez où vous-même?
Normalement à Paris.
Et il y aura une manifestation nationale à Paris?
Non, pas nationale. Manifestation parisienne.
Et s'il n'y a pas de transport, comment font les gens pour les manifester?
Ne vous inquiétez pas, on a des ressources.
C'est-à-dire que vous allez trouver des bus. Bon,
vous savez, on a l'habitude de marcher à CGT, on a l'habitude de faire du vélo.
Donc, en général, c'est vrai que les deux sont dissociés, mais c'est parce que aussi on dit qu'il y a peut-être une crainte de violence dans les manifestations, puisque toutes les manifestations sont émaillées de violence. Est-ce que vous le craignez pour ce jour-là, Philippe Martinez?
On le craint, mais il y a des Moi, j'étais hier à une très belle manifestation qui a réuni 50 000 personnes à Paris. Contre les féminicides, les violences et le harcèlement. Ça s'est très bien passé.
On a déjà vu, par exemple, Philippe Martinez, un 1er mai, qui est un jour de revendication syndicale, perturbé par des Black Blocs.
En 2016 déjà, vous vous rappelez, contre la loi El Khomri, il y avait déjà ce genre de problème grave. D'ailleurs, à l'époque, certains nous accusaient d'être les responsables de ce genre de problème. On voit que ce ne sont pas les manifestants qui sont responsables. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une recrudescence de la violence aussi policière. Vous avez vu ces images de samedi dernier où un manifestant reçoit une grenade lacrymogène ou en tout cas un projectile. Dans l'œil, il a perdu l'œil.
Certains disent police-milice. Est-ce que c'est des mots que vous pouvez reprendre?
Non. Non. Par contre, il y a une dérive importante des ordres donnés aux policiers, parce que je discute aussi avec les policiers de la préfecture de Paris, du préfet, évidemment du ministre. Et c'est autour de ça qu'il faut se pencher.
Didier Lallement, ça vous a choqué ce qu'il a pu dire? On l'a vu dans
Je
ne suis pas dans le même camp que vous à une manifestante. Certains ont réclamé sa démission. Est-ce que vous en êtes?
En tout cas, ce genre de propos n'est pas là pour apaiser les manifestations et les manifestants, mais pour entretenir, de la colère. Et la colère n'est pas toujours bonne conseillère. Mais je vous le répète, ce n'est pas la première. En 2016, déjà, C'était un autre gouvernement. Nous avions alerté sur ces problématiques. Et la réponse de M. Valls, qui était Premier ministre, c'était de dire, c'était d'accuser les syndicats, et notamment la CGT, d'être responsables de ces violences.
Adrien Gindre, une petite question.
C'est pas étonnant, même si on vous écoute depuis tout à l'heure nous parler de la mobilisation, de la grève, de la manifestation, mais au fond, depuis le début, on parle d'une réforme qui n'est pas encore connue, dont les contours ne sont pas donnés précisément par le gouvernement. C'est pas bizarre de se mobiliser sur un texte qui n'existe pas aujourd'hui ?
C'est les propos d'Emmanuel Macron.
Et il ment quand il dit ça ?
Enfin, le rapport de Levoix n'existe pas. Il existe. C'est bien une réforme par points. La réforme par points, elle existe en Suède. Enfin, la retraite par points, pardon. Elle existe en Suède. En Suède, il y a 15% de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. En France, c'est beaucoup, mais c'est 7,5%. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de personnes de plus de 65 ans qui sont pauvres en Suède qu'en France. Or, ce que nous propose le président de la République, il l'a dit pendant sa campagne électorale, c'est une réforme à la suédoise. C'est ça qu'on veut. C'est
et
ça
il
qu'on
a été
veut.
Élu là-dessus. Est-ce qu'il prend les Français en
il a été élu. Il a
alors
été.
Il a annoncé qu'il a été élu.
Non, non. Il a dit qu'il voulait changer le système de retraite. Il a parlé de la clause grand-père pendant sa.
C'est l'une des. Non, mais sur le système. Non, est-ce que vous reconnaissez
qu'il a été les.
Non, mais est-ce que vous reconnaissez que le président de la République a annoncé la couleur pendant sa campagne
pour changer le système de retraite
et qu'il a été élu.
Mais vous me dites aujourd'hui, vous râlez parce qu'on. Mais on connaît pas encore la réforme. Et vous me dites qu'il a été élu sur le principe d'une réforme. Une réforme. Nous, on est pour améliorer le système. C'est-à-dire qu'il faut le réformer. Oui.
Est-ce qu'on peut pas dire Philippe Martinez? Il a été élu sur un principe et vous discutez avec lui sur les modalités d'application et la définition dans le détail.
Mais il a été élu sur beaucoup de choses. Je pense qu'il a, je ne suis pas un analyste politique, ça c'est votre boulot, mais il a été élu sur le nouveau monde, pour faire un nouveau monde de la politique. Je vois que dans sa pratique, c'est plutôt l'ancien monde, de stigmatiser les pseudo-privilégiés. Enfin, c'est quand même le président des ultra-riches. On avait avant lui un président des riches. Maintenant, lui, c'est le président des... C'est peut-être ça, le nouveau monde. Il a été élu sur pas mal de choses. Mais ce que je vois aujourd'hui, quand 60% des Français approuvent une journée de mobilisation, c'est que le président de la République, il devrait se dire. Il y a un problème. Quand il y a une telle mobilisation dans la santé, il devrait se dire, il y a un problème. Et je ne vais pas vous énumérer tous les problèmes qui existent dans ce pays, les pompiers, par exemple.
Alors, on y revient après la question. En plus, c'est tout de suite.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, monsieur Martinez. Laurent Vronsky, industriel et secrétaire général de Croissance Plus. Vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement chinois encourage des entreprises chinoises à prendre des participations dans des entreprises françaises jugées stratégiques, comme Ubisoft, Peugeot, Linxens, qui fabriquent des cartes à puces. J'aimerais savoir si la CGT compte s'inviter dans la gouvernance de ces entreprises pour éviter qu'elles soient pillées, voire entièrement déménagées en Chine.
Philippe Martinez.
Alors je sais que la Chine était le modèle pour l'ancien président du MEDEF, M. Gattaz. Il m'a vanté plusieurs fois les mérites de la Chine. Alors si c'est pour que les Chinois imposent les règles sociales de la Chine en France, vous comprenez que nous, on est pour le droit de grève, on est pour la liberté de se syndiquer, etc., etc., pour des salaires minimums. Nous, on est d'accord. D'ailleurs, il y a des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais pourquoi faire ? C'est ça la question. Est-ce qu'on a le droit de discuter des orientations d'une entreprise ? Est-ce qu'on a le droit de condamner, ou en tout cas de s'interroger sur les salaires des PDG, par exemple ? De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que ça soit complètement démocratique, y compris que les règles de la bourse imposent à des représentants des salariés dans les conseils d'administration de ne pas pouvoir dénoncer.
Oui, on peut se mettre
main
dans la main avec les dirigeants sur cette question-là.
Pas main dans la main, parce que je suis sûr qu'ils ne seraient pas d'accord. Ouais. Je vous dédique que, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des salariés dans les conseils d'administration, mais à condition que leur pouvoir de dénoncer, de proposer, soit renforcé. Si c'est pour lever la main à chaque fois qu'on nous le demande, évidemment, vous comprenez qu'on ne sera pas d'accord.
C'est votre grand jury, Philippe Martinez. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. À tout de suite.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Alexis Brézé du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Philippe Martinez, je pense qu'on va trouver un accord sur un point, au moins.
Dites-le.
La durée de vie augmente globalement, pour les hommes comme pour les femmes. On peut comprendre donc que certains expliquent que de ce fait, il faut travailler plus longtemps, puisqu'on a des retraites plus longues.
Jusqu'à la première partie de votre question, j'étais d'accord. Sur la deuxième partie.
Exactement. Alors. Et c'est là qu'intervient la question, c'est là que vous allez pouvoir répondre. Si on vit plus longtemps, on peut aussi se dire qu'il y a une logique à travailler plus longtemps. Il y a différentes manières de le faire. Repousser l'âge légal, allonger la durée de cotisation, allonger la durée hebdomadaire du travail. Est-ce que sur cette deuxième partie donc, de ma phrase, c'est un point sur lequel vous, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps puisqu'on vivra plus longtemps?
Alors, il y a plusieurs réponses dans votre question. Premièrement, est-ce que c'est un problème de vivre plus longtemps? Parce qu'on a l'impression que c'est un problème. Une société moderne, avec les progrès de la science, avec...
Je vous ai pas dit
c'est
ça.
C'est un fait.
Non, mais je vous réponds pas à vous directement.
Très bien.
J'ai l'impression que pour certains, c'est un problème de vivre plus longtemps. Donc pourquoi on vit plus longtemps? Premièrement, il y a des inégalités dans l'espérance de vie, vous le savez très bien. Moyenne, mais tout le monde ne vit pas plus longtemps.
Globalement.
Oui, mais c'est pour ça que nous proposons de prendre en compte la pénibilité du travail, par exemple. La deuxième chose, c'est que on a besoin de réfléchir pourquoi on vit plus longtemps. Parce qu'on travaille moins longtemps.
Ah oui.
Aussi un peu, parce que la médecine a fait énormément de progrès, malgré tout.
La médecine a fait des progrès.
Alors, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler moins longtemps.
Même si elle est malade, la médecine, vous le savez.
Oui, mais alors, finalement, donc, ça veut dire, si je vous
ça veut
bien
dire
qu'il faut travailler
ça veut
moins
dire
longtemps.
Que si on veut garder cette espérance de vie qui continue à progresser, il faut continuer à travailler moins longtemps. Et on en a la possibilité. En même temps, dernière chose, pour être tout à fait complet dans ma réponse, l'espérance de vie, c'est une chose, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est autre chose.
Donc vous voulez aller, par exemple, à 32 heures par semaine.
Attendez. Et l'espérance de vie en bonne santé, vous le savez sûrement, elle stagne, voire elle régresse. Donc on peut être à la retraite, mais si c'est pour être allongé dans un lit, je ne suis pas sûr que ça soit la solution pour dire « profitez bien de votre retraite ».
Expliquez-nous, Fimbernier, vous voulez le retour à l'âge légal à 60 ans.
À 60 ans, exactement, oui.
Et est-ce que vous souhaitez aussi qu'on travaille moins pendant la semaine, c'est-à-dire 32 heures ?
Bien sûr, bien sûr.
Mais comment on financera les retraites si on travaille moins longtemps, moins d'années?
Je vais vous l'expliquer aussi. Pourquoi il y a des problèmes? Alors, il y a très peu de problèmes de financement de retraite. Le corps vient de...
Le corps parle quand même d'un déficit qui se compte en milliards.
Le Conseil d'orientation des retraites.
Vous savez combien ça fait c'est 7 jours de cotisation sociale. 7.
Non, enfin, en 2025, il parle entre 8 et 17 milliards. C'est pas tout à fait rien.
Les milliards, pour nous, qui avons des petits salaires, c'est beaucoup. Mais... par rapport au produit intérieur brut du pays, c'est très peu. C'est très peu. Vous le savez très bien.
Qu'on vous comprenne.
Ça fait 7 jours par semaine.
Il suffit de, par exemple, de régler le problème d'emploi. C'est plus de cotisations. Et donc, ça fait des recettes supplémentaires. Pourquoi on en est...
Si pour financer le déficit, on augmente les cotisations, on ne résoudra jamais le problème de l'emploi.
Mais ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Donc, deuxième, pourquoi on en est là? Et le corps le dit d'ailleurs. Parce qu'il y a un déficit de recettes pour la sécurité sociale en général.
Oui.
Les exonérations de cotisations sociales patronales, par exemple. Vous le savez très bien. Les différents gouvernements, dont celui de M. Delevoye, parce qu'on appelle ça la réforme Fillon, mais c'est lui qui a exonéré les entreprises. Donc, ça représente plusieurs... 20 milliards, vous voyez, on est...
D'accord, donc vous dites, pour résoudre le problème financier, que vous n'y êtes pas, il faut augmenter les cotisations, mais les cotisations patronales.
Faut les rétablir, pas les augmenter.
Par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui.
Il faut les rétablir. Et puis, il y a une solution, augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, automatiquement, parce que c'est un pourcentage, eh bien, on augmente les recettes, puisqu'on augmente les cotisations automatiquement. Vous voyez qu'il y a des solutions, mais c'est des choix.
Avec de l'argent qu'on prend où?
Mais je viens de vous le dire.
Pour augmenter les salaires aussi.
Mais l'État devrait montrer l'exemple. C'est le problème à l'hôpital aujourd'hui. L'État ne montre pas l'exemple en gelant le point d'indice. Les fonctionnaires sont trop payés. Quand on n'augmente pas des salariés, ça veut dire qu'on les considère trop payés. Enfin, regardez les problématiques qu'il y a à l'hôpital, dans la fonction publique territoriale. Et puis, on pourrait s'occuper de l'évasion fiscale, par exemple. Vous savez que c'est beaucoup plus... que les problèmes de retraite en termes de milliards, eh bien, que fait le gouvernement? Plutôt que de renforcer les contrôles et les agents du Trésor public, il ferme des trésoreries.
Il a mis une cellule en place pour lutter
contre la fraude fiscale, il ferme les trésoreries publiques et il supprime des emplois à la Direction générale des finances. Alors on dit, par exemple, on dit oui, mais avec Internet, etc. Vous savez combien il y a de contacts physiques avec des citoyens, pour les agents des trésors publics en France, 15 millions. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions de contacts, c'est-à-dire des gens qui viennent alors, demander des renseignements. Vous voyez que le numérique, ça ne règle pas tout. Comment on préserve ce lien social dans ce pays? Parce que là aussi, il faut parler des services publics. On a besoin. Il y a un pays qui est fracturé. Il y a des inégalités. C'est le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, l'a révélé encore plus. Eh bien, comment on règle ça? En supprimant des emplois, en fermant des lieux de services publics. Donc, vous voyez qu'il y a des solutions. L'évasion fiscale, c'est combien? 80 milliards,
alors,
je crois.
Alors,
comment vous faites pour revenir à la retraite à 60 ans?
Je viens de vous l'expliquer.
Regardez un instant ce que font nos voisins, tous. L'Allemagne 65, l'Espagne 65, l'Italie 67, les Pays-Bas 70. Ils sont pas tous ultra-libéraux, ils sont pas tous horribles ou idiots. Pourquoi est-ce que nous, on arriverait à rabaisser l'âge de la retraite alors que tout le monde est bien au-delà de l'âge actuel?
Moi, j'écoute mes collègues syndicalistes en Europe et ils contestent tous, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie.
C'est par mauvaise volonté que tous les pays européens ont décidé de reculer l'âge de la retraite.
C'est parce que vous l'avez certainement noté, on est dans une Europe qui est libérale, quels que soient les gouvernements, et il y a des problèmes dans tous les pays d'Europe, avec des conséquences dramatiques. Dramatiques. Mais au-delà de l'Europe, il y a aussi des problèmes ailleurs. Donc il y a des grèves.
Oui, bien sûr.
Il y a des grèves dans tous les pays d'Europe, vous le savez.
Adrien Jarre.
La grève, c'est pas une spécificité.
S'il y avait un moyen de travailler moins et d'équilibrer les régimes de retraite, les autres le feraient. Ils sont pas idiots, mais
ce sont des choix politiques qui favorisent les très grandes entreprises, les actionnaires. Enfin, combien on a. Vous savez qu'on est champion d'Europe des dividendes versés aux actionnaires dans ce pays. Alors, je parle pas des TPE, PME, parce qu'eux, ils en subissent les conséquences. Oui. Eux, ils en subissent les conséquences. Mais toutes les aides aux très grandes entreprises, moi, je pense qu'il faut plus aider les TPE, PME. Mais pour l'instant, qui en profite? C'est les très grandes entreprises qui, en même temps, suppriment des emplois.
Adrien
Philippe Martinez, d'accord, on entend ce que vous dites sur les grandes entreprises. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Il y a eu 17 milliards d'euros sur l'année passée pour le pouvoir d'achat à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Il y a un plan hôpital qui vient d'être présenté.
Non.
Je finis et puis vous répondez
ensuite. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu 17 milliards de données au pouvoir d'achat.
C'est le jeu des questions-réponses. Adrien,
mais essayons d'avoir des questions.
Mais vous allez répondre.
Vous commenterez la nature des 17 milliards autant que vous voulez. Le président de la République, cette semaine, alors qu'il a, lui, le sentiment d'avoir aussi beaucoup fait pour le pays, estime que notre pays est trop négatif. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous dénoncez ce constat? Est-ce qu'à parfois, il ne faut pas aussi se dire il y a des choses qui ne vont pas bien, on est d'accord là-dessus, et il y en a d'autres qui, elles, vont bien ou vont mieux?
Mais avant, on était des Gaulois réfractaires, maintenant, on est des... comment c'est la négative attitude? C'était pour faire référence à un autre premier ministre.
La positive attitude, voilà. Jean-Pierre Raffarin.
C'est un peu comme la météo. Il y a le froid réel et le froid ressenti. Donc lui, il est en train de nous dire qu'il y a le froid réel, et puis que nous, on serait frileux, il y aurait un froid ressenti. Enfin, il y a quand même du monde qui n'est pas content dans ce pays. Alors, on nous dit, mais c'est moins pire qu'ailleurs, c'est ça? Donc, il faudrait se contenter du moins pire.
Mais tout ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2 ans et demi, rien ne trouve grâce à vos yeux, Philippe Martinez.
Si, je pense que la loi sur la PMA, par exemple, c'est une très bonne chose.
Mais je parle en termes de droit. Alors, sociétalement, et pour ce qui
vous
concerne...
Me demandez, je...
Alors, bien sûr, mais on vous entend là-dessus, très bien, dont acte, mais sur les réformes sociales et économiques.
Non, rien. La casse du code du travail, est-ce que ça a amélioré l'emploi? Non. Est-ce que ça a favorisé le pouvoir de défense des salariés? Non. Est-ce que ça renforce le mode d'expression dans les entreprises des salariés? Non.
Et le bonus-malus sur les CDD, par exemple?
Pour l'instant, il n'y a rien. Ça n'existe pas pour l'instant.
Mais c'est prévu.
Ça n'existe pas. Par contre, ce que je vois, c'est que les chômeurs vont encore être moins indemnisés qu'ils ne l'étaient. Vous l'avez vu, les conséquences sur la réforme de l'allocation chômage. C'est pas la CGT qui le dit. C'est tous les rapports qui le disent.
Sur la formation professionnelle et l'application qui est lancée cette semaine.
La réforme de la formation professionnelle, ça va creuser les inégalités. Avant, dans une entreprise, on proposait un projet de formation qui était chiffré en heures, quel que soit le montant de la formation. Aujourd'hui, on a un budget. Ça veut dire que ça nous écarte d'un certain nombre de formations et on veut imposer aux salariés ou aux chômeurs d'ailleurs des choix professionnels qui ne sont pas les leurs.
Donc rien ne va dans le champ économique et social?
Enfin, en tout cas, pour le monde du travail, non. Pour certains, oui. L'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt sur la fortune, je suppose qu'il y en a certains
pas nous encore, mais il y en a certains qui doivent être contents. Vous voyez.
Alexis Brézé.
Les actionnaires sont contents. 51 milliards, je crois, comme vous qui êtes un homme de chiffres en un trimestre.
Alors justement,
51 milliards versés en dividendes aux actionnaires des grands groupes. Vous voyez, il y a un peu d'argent pour la sécurité sociale, pour l'investissement, pour aider les petites entreprises. Vous voyez,
il y a le président de la République qui vous dit aussi le déficit à 3%, et bien c'est plus un taux de tel.
Ouais, ça, vous dites, c'est bien ça. Ouais.
Ah bah, enfin. Là, ça a été une surprise pour tout le monde.
Ouais, mais donc là, vous êtes content.
Ah bah, qu'il le montre.
Bon.
Il le montre.
Il débloque de l'argent pour l'hôpital. Il débloque. Est-ce que ça fait. Est-ce que pour vous, c'était très important qu'il n'y ait plus cette exigence européenne qui soit appliquée.
Attendez. Ça, c'est ce qu'il a dit. Pour l'instant, c'est une réalité. Moi, vous savez, je l'ai entendu à Genève lors du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Mais j'avais des syndicalistes qui me disent, mais il est super bien votre président. On dirait Fidel Castro. Dans son discours, hein.
Ah,
dans son discours.
J'ai dit, déjà, écoute, un premier pas, non?
Oui.
Vous qui avez Che Guevara dans votre bureau, je crois.
Là, c'est un cadeau de mes amis des syndicalistes belges. Là, ils nous disent, ah bah finalement, entre ce qu'il a dit au mois de juin à Genève et la mobilisation qui se prépare sur le 5 décembre, il y a quand même un petit décalage.
Justement, si on revient à la réforme des retraites, là, Emmanuel Macron a installé, alors c'est pas absolument clair, mais enfin, il a mis sur la table quelque chose qui ressemble à une concession, qui est cette fameuse clause du grand-père. L'idée, c'est qu'on fait pas, on n'applique pas la réforme tout de suite à tous les salariés, on l'applique au fur et à mesure qu'ils arrivent sur le marché du travail, c'est-à-dire pour qu'elle, finalement, elle trouve son pleine application, il faut une génération, c'est-à-dire 42 ou 43 ans. Est-ce que vous dites, bon, bah, dans certaines conditions, c'est quand même mieux, ça sera moins brutal, c'est une base de discussion?
Non, moi, je suis pas grand-père, mais j'aimerais pas que mes enfants ou les enfants de mes camarades ou les petits-enfants me disent, tu nous as sacrifiés. Tu nous as
sacrifiés. Donc même ça, vous en voulez pas?
Mais pourquoi?
Parce que c'est quand même.
Mais pourquoi les jeunes qui sont, à qui on demande de faire des études, par exemple, pourquoi ils seraient sacrifiés? Pourquoi il devrait travailler jusqu'à 70 ans? Pourquoi? Moi, nous, on dit, il y a des solutions. Je vous en ai donné quelques-unes pour financer. Et d'ailleurs, nos propositions, c'est par exemple de prendre en compte des années d'études, parce qu'on demande aux jeunes de faire des études, et c'est une bonne chose, mais pas pour qu'ils repartent.
Mais donc, on est d'accord.
Je vous dis donc que
la clause dite du grand-père, pour vous, c'est une concession qui n'est pas recevable.
Nous proposons que les années d'études, elles soient validé et cotisé, et c'est ça la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la génération à venir, débrouillez-vous, pour être poli, on dit faites des études, mais la société va prendre en compte le fait qu'il faut jeunes formés dans ce pays.
Adrien Gindre.
Votre homologue de la CFDT, Laurent Berger, expliquait il y a quelques instants qu'il ne serait pas dans la rue, lui, le 5 décembre.
C'est pas un scoop.
C'est pas un scoop, il vient de le dire. En revanche, il dit que tout reste possible pour janvier, mais il veut laisser visiblement un peu de temps quand même au gouvernement pour en dire davantage. Est-ce que on peut pas se dire que c'est une démarche à la limite qui peut se comprendre, être constructive, de se dire on ne va peut-être pas crier avant d'avoir mal, ou on va attendre un deuxième temps d'avoir des clarifications du gouvernement?
Oui, enfin, je constate premièrement que Laurent Berger a évolué, parce que il est de plus en plus inquiet sur la nature de cette réforme. Et puis je constate aussi qu'il y a des sections CFDT qui vont se mobiliser le 5, les cheminots par exemple. Mais je constate aussi que la CGC, la Confédération Générale des Cadres, appel à se mobiliser le 5 décembre. Donc on n'est pas, vous voyez, on n'est pas les, là, pour reprendre un terme de M. Macron, nous les Gaulois réfractaires avec nos moustaches, j'ai oublié le casque aujourd'hui. Il y a beaucoup de...
Mais vous croyez à cette convergence avec la CFDT, c'est possible? Vous en parlez avec lui, directement avec Laurent Berger?
On discute, évidemment. Si les syndicalistes ne discutent plus ensemble, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a suffisamment de divisions syndicales dans ce pays.
Mais ça veut dire qu'une intersyndicale est possible?
Mais pour l'instant, il y a un large rassemblement sur le 5 décembre, il y a le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, il y a les organisations de jeunesse, enfin il y a du monde qui est mobilisé le 5 décembre, vous l'avez constaté.
Mais vous l'appelez de votre vœu, cette intersyndicale? Vous dites qu'il faut qu'on arrive à faire bloc?
Mais je pense que quand il y a 60% de Français, c'est-à-dire pas uniquement de travailleurs et de travailleuses, qui approuvent une journée d'action, ça pose la question à tout le syndicalisme. Ça pose la question à tout le syndicalisme.
Et donc Laurent Berger doit se poser la question, lui?
Quand le syndicalisme est divisé, et malheureusement, c'est ce qui se passe depuis quelques années dans ce pays, eh bien c'est M. Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui se frotte les mains.
Est-ce que c'est pour vous aussi, je le disais en introduction de cette émission, bien une forme de revanche par rapport à tout ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à mettre en échec la réforme de la SNCF, la réforme de l'assurance chômage, alors que vous étiez opposé aussi à côté de la CFDT. Est-ce que pour toutes ces raisons, vous dites, ben oui, c'est aussi pour nous une manière de revenir sur le devant de la scène?
On a, enfin,
On n'a pas quitté le devant de la scène pour reprendre vos propos, parce que vous n'avez jamais autant parlé de la CGT. Donc, on n'a pas disparu pour des morts, comme certains le disent. On est quand même assez présent. On n'est pas dans une attitude. Qu'est-ce que ça veut dire, en revanche? Nous, on défend l'intérêt du monde du travail, des retraités, des chômeurs, l'avenir de la jeunesse, comme je viens de le préciser. C'est ça notre objectif. Or, il se trouve que la retraite, c'est la première réforme depuis que M. Macron est président de la République qui touche l'ensemble des Français. Actifs, retraités, publics, privés. Jusqu'à maintenant, il a divisé. D'ailleurs, il essaye de diviser. Il essaye de reprendre sa bonne formule en disant « Mais c'est un mouvement de grève pour les privilégiés. »
Les régimes spéciaux, oui.
Oui, oui. Le Code du travail, il a dit « Non, mais c'est que le privé, le fonctionnaire, vous êtes tranquille. Les chômeurs, c'est que pour les chômeurs. La SNCF, c'est que pour la SNCF. Les retraités, la CSG, c'est que les retraités. » Il a toujours divisé. C'est la spécialité du gouvernement.
Et en même temps, il va au contact, regardez sur Whirlpool, il va au contact, ça s'est bien passé à Amiens, avec des gens qui sont venus.
Ça s'est bien passé, c'est pas les commentaires que j'ai entendus, mais enfin...
Et le 11 décembre, vous serez avec le PCF qui va organiser
donc
un...
Donc à Whirlpool, ça s'est pas bien passé, parce qu'il a tenu des promesses qui... Enfin, il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues.
Juste vous dites, il faut travailler tous ensemble, c'est-à-dire que le 11 décembre, vous serez aux côtés du Parti communiste qui va organiser un meeting unitaire avec des forces de gauche et syndicales.
On a reçu une invitation et... Comme d'habitude chez nous, ça se décide démocratiquement. Donc c'est pas à vous que je vais demander de voter, donc que vous soyez syndiqué CGT.
Ça nous le dira en interne. ça appartient à chacun. C'est l'heure de Questions Express.
Ouais. Le grand jury, Questions Express.
Pour ou contre, Philippe Martinez, la naturalisation de tous les travailleurs clandestins?
Tous les travailleurs clandestins, ça veut rien dire. Par contre, nous, on est pour la régularisation de tous les travailleurs qui n'ont pas de papier officiel, mais qui travaillent. Et je suis assez fier d'appartenir à une organisation qui organise des grèves pour que ces travailleurs sans papier, on en a fait...
Donc vous voulez une vague... Ça veut dire, c'est combien de personnes? C'est combien de travailleurs aujourd'hui en France?
Par essence...
Oui, mais est-ce qu'on les évalue entre 200 papier, et 300 000? Voire 500 000.
Par essence, quand on n'a pas de papier, on ne va pas le dire, on ne va pas se déclarer à la préfecture ou dans les instituts de recensement. Moi, je me félicite qu'il y ait eu un mouvement de grève important en région parisienne et que 120 travailleurs viennent d'être régularisés parce qu'ils travaillaient, ils payaient des cotisations sociales, ils payent des impôts souvent. Et on leur dit, par contre, ils sont exploités, parce qu'on leur dit, vous n'avez pas de papier, on vous vire.
Pour ou contre, Philippe Martinez, l'interdiction du licenciement des seniors? Est-ce qu'il faut une loi pour interdire le licenciement des seniors?
Il ne faut pas de loi, il faut les maintenir au boulot. Mais vous savez qu'il y a pratiquement un salarié sur deux dans les grandes entreprises de plus de 55 ans qu'on renvoie vers la collectivité. Gardons-les jusqu'à 60 ans, vous voyez, ça fait des salaires, des cotisations et des chômeurs en moins.
Pour ou contre, une police municipale à Paris, Philippe Martinez?
J'ai pas d'avis sur le sujet. Enfin, je pense qu'il faut, il faut renforcer par contre les moyens de la police nationale, parce qu'ils seront aussi en grève le 5 décembre, vous l'avez noté, et ils ont des conditions de travail pénibles, ils ont des heures supplémentaires à tire-larigot, ils ont du matériel, ils travaillent dans des conditions pénibles, donc il faut renforcer les moyens de la police nationale.
Pour ou contre le mois de janvier sans alcool?
Je pense que c'est une question... peut-être qu'il faut...
Le dry January.
Peut-être qu'il faut modérer la consommation après les fêtes de fin d'année.
Ah ben voilà, alors peut-être pour le dry January. Et enfin, pour ou contre le boycott du film de Roman Polanski?
Non, je ne suis pas d'accord. Il faut faire une différence entre la culture et dénoncer...
Vous irez voir J'accuse?
J'ai pas beaucoup de temps pour aller au cinéma. Pourtant, j'adore le cinéma. Je vous recommande par contre quelques films que j'ai vus. Le dernier film de Ken Loach.
Là, vous en avez fait
par exemple.
Voilà. C'est dit. C'est l'heure tout de suite de Questions Nettes.
Le grand jury, Questions Nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe Martinez. Alors, les internautes qui ont suivi cette émission appréhendent vraiment la grève du 5 décembre et les difficultés que ça va avoir dans leur vie quotidienne. Pour François, ces grèves ne servent qu'à instaurer la pagaille. C'est ce qu'il écrit. Annick, elle vous met en garde directement. Attention, ça va se retourner contre vous. Et William, lui, critique les avantages des régimes spéciaux qui créent la désinégalité. Et il vous pose une question directement. Est-ce que vous trouvez normal que les familles des agents SNCF aient la gratuité des billets?
Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est sous certaines conditions. Il y a dans plein de professions, il n'y a pas des avantages. C'est lié à l'entreprise.
C'était dénoncé de façon très virulente, énergique par la Cour des comptes qui dit que ça profite à 1,3 million de personnes.
Ah oui, la Cour des comptes a dit que les cheminots étaient tous payés tous. Enfin, non, il n'y a plus l'impôt sur la fortune, qu'ils étaient tous super bien payés. Enfin, je pense que la Cour des comptes.
Le rapport de la Cour des comptes, ça vaut rien.
Enfin, en tout cas, ça n'est pas notre référence. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges dans le rapport de la Cour des comptes. Mais vous savez, moi, je travaille chez Renault. Est-ce que je suis un privilégié parce que j'ai des remises sur le prix des voitures. Quand Renault était nationalisé, d'ailleurs, j'ai croisé quelques hommes politiques qui disaient c'est un scandale, c'est des privilégiés. Ça marque l'attachement à l'entreprise. Et il y a des tas d'entreprises, y compris privées. Donc je le dis aux auditeurs et aux téléspectateurs, qui ont, par l'attachement à leur entreprise...
Des avantages.
Non, des droits.
Des droits. Voilà. Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, cette fois-ci, ça concerne l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui estime qu'Amazon détruit deux fois plus d'emplois qu'il n'en produit. Mais le géant américain, lui, revendique avoir créé 1800 emplois en CDI cette année. Est-ce que, d'après vous, qui a raison ? Est-ce que c'est... Amazon ou est-ce que c'est au contraire Mounir Majoubi?
Moi je me fie au rapport que viennent de faire Attac et plusieurs organisations qui confirment que évidemment il y a des emplois de créés, mais c'est comme pour le pays, on compte toujours les emplois créés, jamais les emplois détruits. Et oui, ça détruit les petits commerces, mais au-delà des emplois, c'est la fiscalité pour Amazon. Vous voyez, vous cherchez de l'argent, vous demandez à Amazon qui paye un peu plus d'impôts.
Vous appelez beaucoup Alexis Brézé.
Je suis bien d'accord avec vous là-dessus.
Alors, je réponds à ces questions. Ouais. Et puis, les conditions de travail chez Amazon. Vous savez, le turnover chez Amazon, il est très, très, très important. Je connais des syndiqués CGT chez Amazon. Les conditions de travail, c'est pénible. Il faut des très jeunes, en bonne santé, mais les maladies professionnelles, un travail pénible qui mériterait, je vais interpeller un autre, qui mériterait de partir plutôt à la retraite.
Est-ce que vous réclamez l'organisation d'un Grenelle social?
Si c'est pour négocier quelque chose, pourquoi pas? Il y a des tas de sujets. Les salaires, les retraites. Moi, j'ai demandé au président de la République à plusieurs reprises qu'on ait une grande concertation, en tout cas discussion sur le travail, le sens du travail. Il y a de plus en plus de salariés qui sont attachés à leur travail, mais qui disent on ne peut pas bien faire notre travail. Ça mériterait. Pourquoi?
Donc pas forcément une conférence sociale.
On a quelques expériences du gouvernement précédent. Ouais. Si c'est pour nous écouter et faire ce qu'ils veulent après... Bon,
dernière question rapide, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors ça concerne la marche qui a eu lieu hier à Paris.
On en parlait tout à l'heure.
Voilà, contre les violences faites aux femmes. Il y a eu plus de 49 000 personnes qui ont manifesté hier. Le hashtag Nous Toutes a été dans les sujets et plus commenté sur Twitter. Et certains médecins demandent la levée du secret médical pour pouvoir saisir les procureurs dans les cas de violences conjugales. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut briser le serment d'Hippocrate?
Écoutez, les avis, je crois que les avis sont partagés. Je n'ai pas un point de vue défini là-dessus. Les avis sont partagés. Certains médecins disent c'est pas à nous de porter la responsabilité des manques dans la justice ou l'accueil dans les commissariats. Donc je laisse les spécialistes évoquer cette question.
Merci beaucoup Philippe Martinez, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.